Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
Merci à Dieu, celui-là qui a permis que nous puissions avoir ces moments de communion avec lui au travers de la Sainte Cène. Nous voulons dire merci à chacun d'entre vous qui vous êtes trouvés disposés à prendre part à cette grande réalisation qui nous a donné le salut de la part de Dieu. Notre prière et la prière de l'Église, c'est que chacun de nous comprennent qu'en prenant part à la Sainte Cène, il est invité à toujours se souvenir que notre vie est déjà consacrée à Dieu, que nous devons vivre une vie qui montre que nous avons été lavés par le sang de la croix, qui montre que le péché et sa puissance a été brisé dans le corps de Jésus, pour que notre vie soit une vie vécue pour la plus grande gloire de ton nom. À chaque moment et partout où nous devons être, nous devons avoir conscience de cette réalité et nous devons vivre en harmonie avec cet appel. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as choisi de nous appeler, tu as choisi de nous laver par le sang, nous purifier. Tu as choisi, Seigneur, de faire de nous tes enfants pour que notre vie soit un témoignage vivant de l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Te prions de nous bénir tous, de bénir tous ceux-là qui ont pris part à cette table pour que nous puissions reconnaître que notre vie doit être toujours renouvelée chaque matin pour la gloire de ton nom. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour te glorifier. Parce que c'est ça la mission que tu as donnée à ton Église et aux membres de ton Église. Merci d'accepter de nous bénir, Seigneur, d'accepter de poursuivre avec nous les temps qui restent pour ce culte, car nous te les prions, notre Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.
Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu en 2 Samuel, chapitre 12, les 14 premiers versets. 2 Samuel 12, 1 à 14. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit, « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait force, moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche. Il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'agnel, il donnera compensation au quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître, et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'est trop peu, je vais y ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui-même, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, « Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. » David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais, puisque dans cette affaire, tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le fils qui t'est né, lui, mourra. » Parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avons reçu un message à partir du serviteur de Dieu qui nous a appelés à demeurer intègres avec Dieu, même lorsqu'il n'y a personne qui nous y encourage. Il nous a dit que la fin n'est pas loin, demeurons intègres, notre destinée est proche. Donc, on n'a pas besoin de se salir avec quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous allons développer un thème qui est intitulé « Le prix de l'abandon de Dieu ». Le prix de l'abandon de Dieu, les conséquences qu'on peut avoir, qu'on peut subir quand on abandonne, quand on quitte, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Les objectifs sont les suivants. À la fin du message, nous souhaitons que chacun soit capable d'éviter la désobéissance ou bien l'infidélité à l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Parce que cela conduit à des conséquences néfastes. Le deuxième objectif est celui d'être conscient que l'infidèle qui ne se répand pas, il est vraiment conduit à la perdition éternelle. Donc, si je ne me répands pas, je dois être sûr que je suis en train d'aller droit en enfer. La vie éternelle, je ne l'aurai pas. Nous allons essayer de comprendre le message du jour à travers 6 points, mais ce sont des petits points, ne tremblez pas. C'est vraiment des petits points, mais j'ai décidé de les séparer à cause du contenu. Le premier point va nous parler du contexte. Le deuxième point va nous structurer le texte. Le troisième point, nous allons parler de l'amour de Yahweh. Le quatrième point va contextualiser le message. Et le cinquième point, c'est la conclusion, mes excuses, c'est 5 points. Bien, alors, au niveau du contexte, je dois rappeler, dans le contexte lointain, donc les textes qui viennent avant celui que nous avons lu, ou bien l'image de David avant de faire ceci, c'est quoi? Qui est David avant de commettre ce péché? Alors, dans ce contexte lointain, vous allez remarquer que David était un roi selon le cœur de Yahweh. Donc, il était son grand ami, un roi selon le cœur de Yahweh. Donc, personne d'autre au monde n'était aimé comme le roi David dans le face de Dieu. Il était une figure très importante en Israël, d'abord par son idéal royal. Dieu l'a choisi, l'a élu. C'était quelqu'un qui était au service de son père au champ. Il était en train de paître le troupeau de son papa. Il n'a même pas d'origine royale, même pas son origine clanique. Ne lui donne aucun droit de devenir roi, mais il a une faveur imméritée de devenir roi sur le peuple de Dieu par la décision de Yahweh. David, quand Dieu le place comme roi en Israël, quand Dieu l'établit comme roi en Israël, il est considéré comme le fils de Dieu. Et donc, fils de Dieu, c'est que c'est quelqu'un en Israël, donc une personne de très importante, une personne qu'on doit écouter. Donc, quand il parle, on sait qu'il tire son autorité de Dieu, donc c'est Dieu qui parle. Il a fait des conquêtes. Ces conquêtes ont caractérisé sa personne. Quand il était jeune, quand il est au pouvoir, c'est vraiment un guerrier, un vaillant. À un moment, cela a attiré la haine de Saül. Donc, il était très important. Il a battu Goliath, donc il a battu les Philistins, et lui étant israélite, donc Israël vient de battre, vient de combattre, de conquérir l'ennemi du peuple de Dieu qui est les Philistins. David a succédé à Saül. Saül n'a pas aimé. À un moment, il a cherché des moments pour mettre fin à sa vie, mais Dieu l'a protégé parce qu'il est son fils. La deuxième chose que nous allons retenir du figure importante de David en Israël, c'est sa fondation d'un empire et d'un État indépendant d'Israël. Sous son règne, Israël a envahi l'espace. Donc avec ses conquêtes, il a pu gagner d'autres pays voisins et il les a annexés à Israël. Il a eu des victoires. Alors, c'était un État indépendant. Il a régné pendant 7 ans à Hébron. Et Hébron, c'est un lieu très reconnu, ou bien un lieu très important dans la Bible pour ceux-là qui ont été des grandes figures. C'était là où on enterrait les grandes personnalités du peuple d'Israël. Alors, pendant 7 ans, il a régné et c'était sur 10 tribus. Israël a 12 tribus, mais lui, il a régné sur 10. Alors, plus il continuait à régner, plus il avait le souci d'avoir l'autorité sur tout Israël. Il a fini par conquérir les 2 autres tribus qui étaient sous le contrôle des vestiges de Saül. David est à la base de la fondation d'une dynastie éternelle. Ça, c'est en 2 Samuel 7, où David est en train de recevoir la promesse de Dieu, que Dieu va rendre grand son nom. Donc, il y aura une dynastie éternelle. Donc, la royauté ne quittera pas la maison de David. Alors, avec cette façon de voir les choses, plus Dieu continuait à donner des victoires à David, un jour, David va danser devant l'Arche de l'Alliance en 2 Samuel 6, le verset 16. Vous allez remarquer que le livre-là affirme, ou bien le passage-là est en train d'affirmer son lien entre lui et Yahweh. Il danse, il est reconnaissant que toutes les victoires qu'il a, c'est vraiment au nom de Yahweh, ou bien c'est Dieu qui le lui accorde. Maintenant, au chapitre 11, le chapitre qui précède juste le chapitre que nous venons de lire, vous allez remarquer que David va désobéir à Yahweh, lui, une grande figure qui a reçu tout ce que je viens de dire. Cette fois-ci, il va écouter sa volonté et non la volonté de Yahweh. Au chapitre 11, il va prendre la femme du voisin. Le voisin, c'est Uri et la femme, c'est Bethsabée. Il va coucher avec cette femme en secret. Et quand il couche avec la femme en secret, il veut dissimuler sa faute en tuant le mari de cette femme pour que le monsieur ne se rende pas compte de la grossesse indésirée ou bien la grossesse qui vient vraiment par surprise désagréable dans leur couple. Et puis, il va décider de tuer Uri. Alors, il y a deux erreurs. Il vient de coucher avec la femme qui n'est pas sa femme et il tue son mari. C'est les versets que nous avons lus sont en train de réagir à ça. Alors, la structure de notre texte, est subdivisée en trois parties. Du verset 1 à 6, vous allez remarquer que le prophète Nathan passe chez David pour l'avertir des conséquences de son péché. Il a pris Bethsabée, il a tué son mari. Nathan a été sage. Il sait que pour s'adresser à un roi, un fils de Dieu, on ne doit pas venir avec des mots cachés. Il utilise une histoire et David, très motivé par son sens de justice, il apporte son jugement. Il dit, aussi longtemps que Dieu est vivant, cet homme doit mourir. Ah, on verra qui mourra maintenant. Cet homme doit mourir aussi longtemps que Dieu est vivant. Donc lui-même sent que ce que cet homme a fait, c'est sans cœur. Alors David continue. Elle dit d'ailleurs, il a pris une. Il doit rendre quatre. Ne sachant pas que cela va s'opposer à lui. Et voilà, les versets là sont en train de montrer, 1 à 6 sont en train de montrer que David avait suffisamment de femmes. Donc ce n'était pas la femme qu'il manquait. Je dois signaler ici en passant que en Israël ou bien dans le Proche-Orient, il était d'habitude que quand tu succèdes à un roi, tu dois récupérer ses épouses. Alors pour David, c'est un peu bizarre. Parce que David a épousé la fille de Saül, Michal, et quand il succède à son papa, donc même la belle-mère sera sa femme. Aïe, aïe, aïe. C'était normal, c'était vraiment leur culture, c'est comme ça. Alors David, donc il va se chercher des femmes, mais à ces femmes s'ajoutent les épouses du prédécesseur. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça veut dire que le prophète est en train de montrer à David que ce n'est pas la femme que tu as manqué, tu en as plusieurs dans ton harem. Alors, le sixième verset là est en train de nous faire entrer dans la deuxième partie de la structure de notre texte. À la fin, il est dit, tu es cet homme-là. Du verset 7 à 9, Nathan révèle que c'est David l'homme-là fautif. Tu peux te mettre un peu à sa place. Essaie d'imaginer. Tu as déjà prononcé une sentence contre quelqu'un parce que tu as entendu une histoire. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre, tu as à dire. Mais quand ça revient à toi, ça pèse maintenant. Alors, David, on lui déclare que c'est bien lui l'homme fautif. Et Dieu rappelle ce qu'il a été pour lui dans les versets 7 à 9. Il rappelle tout ce qu'il a été pour lui. Tout ce que j'ai montré comme David, une personne importante, une figure importante en Israël. On a rappelé tout ça à cette partie. Et vers la fin, on mentionne maintenant sa désobéissance à Dieu. Tu as maintenant désobéi malgré tout ce que Dieu a fait. Comme si cela ne suffisait pas, tu arrives même à désobéir. C'est quoi ça? Alors du verset 10 à 14, David va payer le prix de son abandon de Dieu. Il va payer le fait qu'il a osé écouter sa volonté et non la volonté de Dieu, le fait qu'il a essayé d'être un peu à côté de la Torah, à côté de la loi. Parce qu'ici, il doit être guidé par la loi, lui qui est le garant de la loi. Alors, dans ce verset 10 à 14, il s'agit du jugement de Dieu. Le prophète prononce maintenant la sentence de Yahweh. Suite à l'égoïsme du roi, Nathan révèle l'adultère et le maître d'Uri qu'il a commis. J'ai précisé qu'il a fait ça en secret. C'était vraiment en secret. En secret. Il a couché avec la femme, il n'a pas donné information à son mari. Ou bien il n'a pas dit à ses serviteurs. Il n'y a que Bethsabée qui savait qu'elle venait de se salir avec le roi. Et quand il tue Uri, ce n'est pas lui qui l'a tué, mais c'est sur son ordre. Donc c'est bien lui qui l'a tué par ses hommes. Il a exécuté cela par sa troupe, par ses hommes. Toujours au niveau des versets 10 et 14, il décide maintenant, la sentence de Yahweh est la suivante. Il y a trois éléments qui vont faire souffrir David ou bien qui vont exprimer la colère de Yahweh sur David. Il a été dit ceci, « L'épée ne quittera pas ta maison. » Ah, c'est fort. C'est fort. C'est une violence grande. Donc, les gens vont s'entretuer dans ta famille. Et c'est vrai, directement au chapitre 13 de ces 2 Samuel, vous allez remarquer le viol de Tamar par son frère, son demi-frère. Donc, ce sont les désordres que Yahweh a dit, bon, tu verras, comme tu as désobéi, tu verras maintenant. La colère de Dieu est grande. Alors, l'épée ne quittera pas ta maison. Tamar est violée par son demi-frère Amnon. C'est déjà un désordre. Et cette histoire, si vous la lisez bien, vous allez remarquer que David est passif. Amnon, c'était son fils bien-aimé. Tamar était sa fille très jolie, qui vivait dans des appartements. Donc, il était difficile pour un garçon d'atteindre Tamar. Alors, Amnon fait venir sa sœur par son papa. Et il dit son message clairement que j'ai besoin qu'elle vienne me faire des gâteaux en forme de cœur. Papa devient sans mots parce qu'il comprend que le fils est en train de communiquer un message d'amour, mais papa n'a pas de conseils à donner. Bon, bien sûr, l'inceste était autorisé en Israël. Donc Amnon pouvait marier Tamar sans problème. Malheureusement, ses intentions n'étaient pas bonnes. Alors quand on dit « l'épée ne quittera pas ta maison », Absalom, quand il va découvrir le viol de sa sœur par son demi-frère Amnon, il va tuer Amnon, son frère. Déjà, ça commence. L'épée est en train de se faire voir et vivre dans sa maison. Imaginez, les fils décident de se tuer. Et d'ailleurs, à cette fête où Absalom avait tué son frère Amnon, précisons que David était aussi visé. Il a eu la chance, il avait été averti par un de ses serviteurs que si tu y arrives, tu vas mourir. Alors, il a pris des excuses, il a fait des excuses pour ne pas participer à la fête, mais sinon il mourrait en deux, et lui et son fils. Parce que Absalom a dit, comment papa ne peut pas intervenir? David s'est tué. Vous savez pourquoi cette façon de se comporter pour David? David n'avait plus de mots, n'était plus un père modèle. Ses fils savaient que papa a pris le voisin. Donc la grossesse poussait. C'est clair. Alors papa n'a plus à dire à ses enfants. Donc il a perdu son autorité sur ses enfants. L'éducation des enfants devient foutue. Alors, la deuxième conséquence... Yahweh va prendre sous les yeux de David ses propres femmes pour les donner à l'un de ses proches pour lui faire subir l'humiliation. Entre humains, on s'humilie, mais quand Dieu décide de t'humilier, c'est fort. Ce sont tes femmes qui coucheront avec les autres hommes sous tes yeux. Et on a dit sous le soleil. Chers mariés, réfléchissez un peu. C'est votre femme. Ah, vous devenez trop calme. Ou bien vous vous rendez compte que c'est vraiment trop. C'est votre femme parce que tu as commis une bêtise en secret et Dieu décide de t'humilier sous le soleil. Donc, partout au monde où il fait jour, tout le monde verra. Ah, quelle humiliation! Alors que ceux qui travaillent auprès des femmes violées, ils disent que quand la femme est violée, la tendance, c'est de se séparer de son épouse. Bon, elle a été violée, tu n'as pas été là. Mais cette fois-ci, tu seras là. Un commentateur a dit que Dieu a décidé de frapper David par l'impuissance. Et comme ça, dans le harem royal, la case du roi était au milieu. Alors, la femme pouvait venir. Alors, chaque fois que la femme vient, elle trouve que c'est un mari foutu. Elle rentre. Alors comme ça, les femmes seront prises par d'autres. Ah, c'est compliqué. En tout cas, désobéir à Dieu n'est pas bon. Troisième punition, l'enfant qui naîtra de cette union mourra. Ça fait maintenant des victimes. Est-ce que l'enfant était là? L'enfant a quel prix à payer ici? L'enfant devient victime du péché que son papa a commis en secret. Mais l'enfant va mourir. C'est le grand frère de Salomon. Parce que c'est de cette femme que David va avoir encore Salomon. Ah Dieu, il est aussi ce qu'il est. Alors, dans le contexte lointain, donc les versets qui viennent après et les chapitres qui viennent après vont montrer que David a vraiment vécu suffisamment les conséquences de ses fautes. Bien-aimé, il y a un danger quand on désobéit. Il y a un danger. Tu es privé de la gloire de Dieu. Il y a la rupture des relations avec Dieu. La générosité est aussi refusée. David voulait construire un moment le temple pour Yahweh en 2 Samuel 7. Mais Dieu dit, tu as le sang sur tes mains, tu ne me construis pas. Tu veux faire quelque chose et Dieu dit non. Ah! Il y a présence de victimes. Tu sais ce que tu as fait. Est-ce qu'il n'y a pas encore de victimes dans ce que tu as fait? Peut-être pas encore, mais ils seront là. Elles seront là, les victimes. Il y a Abraham qui a fait aussi la désobéissance à Yahweh. Il a écouté son épouse Sarai. Et quand il écoute sa femme, il a couché avec la servante, bien sûr, même si cela était autorisé. C'était aussi autorisé à la maîtresse de donner l'espace à la servante si elle n'est pas disponible de recevoir le maître. Mais l'erreur ici, c'est que Dieu a dit que Abraham aura un fils avec son épouse, Sarah. Mais Sarah dit à Abraham, non, j'ai vieilli, peut-être l'autre. Il a écouté sa femme. Parce qu'il a écouté la femme. Vous suivez les informations. Il y a la guerre en Asie, entre qui et qui? Israël et Palestine. Israël, ce sont les descendants d'Isaac. Et la Palestine, ce sont les descendants d'Ismaël. La bagarre continue jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ces gens étaient là? Ce sont les conséquences de leur grand-père. Ah! Nous serons aussi grands-pères. Je vais y arriver. Si nous prenons un deuxième exemple, après celui-là d'Abraham, nous prenons l'exemple d'Akan. Akan a volé en secret. Personne ne savait qu'il a volé. Il est allé dissimuler ce qu'il a volé sous sa tente. Personne n'a su. Mais quand le Seigneur a décidé de l'humilier, il y a eu défaite du peuple d'Israël devant ses ennemis. Il y a des victimes encore. Est-ce que le peuple devait échouer? À cause de la faute d'une seule personne, la troupe d'Israël a la défaite devant ses ennemis. Et Josué a prié, il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain si c'était pour venir nous humilier? Et si on nous exterminait, quel sera ton nom? Nous sommes en train de faire passer ton nom, n'est-ce pas? C'est par nous que les gens vont te connaître. Et si nous, on meurt, alors ton nom, tu penses quoi? Et Dieu dit, debout, quelqu'un a péché. Allez, tu rassembles tous les peuples. Un seul a péché, mais le peuple subit. Un Congolais peut pécher et tous les Congolais vont subir. Hey, que Dieu nous en préserve. Vraiment. Alors, quand même, Dieu témoigne toujours de son amour envers les désobéissants. Dieu ne dit pas que c'est la désobéissance et c'est la fin. C'est un Dieu amour. Il montre toujours son amour. Il est toujours miséricordieux. Il a témoigné de sa miséricorde au verset 13b. Il a dit, tu ne mourras pas. Parce qu'il n'est pas mort. Son fils est mort à sa place. C'est comme si. Alors, Dieu est prêt aussi à pardonner nos fautes. David a demandé pardon au verset 13a. À 13a, David demande pardon. Lui qui a été obéissant, il dit, en tout cas, Seigneur, je me rappelle, en tout cas, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Et Nathan, le prophète, il dit, tu ne mourras pas. Dieu s'est passé de ton péché. L'amour de Dieu est là. Nous qui entendons ce message, la repentance a la force. Tu as désobéi à secret. Dieu peut décider de t'humilier sous le soleil. Mais si tu te repens, Dieu peut encore t'accepter parce que c'est un Dieu qui sait pardonner. Alors, bien-aimés, nous avons peut-être des passés sombres. Chacun se connaît. Tu connais tes secrets que ton épouse, que ton mari, que tes parents, tes amis ne connaissent absolument pas. Toi seul, tu connais. Je vous donne quelques secondes de réfléchir sur les bêtises commises. Oui, tu te rappelles seulement là où tu n'as pas été propre dans ta relation avec Dieu. Tu as été désobéissant, en secret. Je crois que ce regard vers moi est en train de vous rappeler des choses. Oui, alors, tu as un passé sombre. Tu as fait des choses en secret. Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Il est omniscient, il connaît tout. Ce que tu as fait en secret, ce que tu fais et ce que tu feras, lui connaît. Il connaît nos planifications déjà là dans nos têtes, il connaît. Alors, ne faut pas penser que j'ai fait quelque chose et personne n'a vu. Dieu était là, il l'a vu et il connaît. Il attend seulement que tu te repentes. Et si tu ne te repens pas, la sentence sera là, le jugement, et là, c'est un Dieu juste. Il châtie et il bénit à juste valeur. En termes de conclusion, nous voulons dire ceci, que nous réalisons que Dieu n'a pas eu peur, à la lumière de tout ce qui a précédé, nous réalisons que Dieu n'a pas eu peur de la figure de David, que lui-même lui a donnée. Il n'a pas dit... C'est devenu un grand homme. Et c'est moi-même qui l'ai fait, qui ai fait ce qu'il est aujourd'hui. Dieu n'a pas eu peur. Lui, il est juste. Il n'a pas eu peur de l'image qu'il a donnée à David pendant qu'il était encore obéissant à lui. Mais Dieu a décidé de l'humilier. Donc, il y a toujours un châtiment, il y a toujours un prix à payer quand on abandonne Dieu. Nous devons signaler aussi que Dieu fait dépendre le don de sa grâce d'une action humaine. L'action humaine ici que nous devons poser pour mériter la grâce de Dieu, c'est la repentance. Demande seulement pardon à Dieu d'un cœur sincère pour tout ce que tu as fait dans le secret, dans l'ombre, dans l'obscurité. Et Dieu est prêt à te pardonner. Nous avons la chance d'écouter cela. Il y a d'autres qui ont fait des péchés, mais la punition de Dieu, c'était la mort. Nous voyons Ananias et Saphira, ils ont désobéi. Il n'y avait pas même d'obsèques organisées. On te pose la question, tu réponds, tu tombes, on part t'enterrer. La femme vient, on lui pose la question, elle répond aussi vraiment dans la désobéissance. Et quand elle répond, le serviteur de Dieu regrette, il dit vraiment, vous décidez d'attrister le Saint-Esprit. Ok, ceux qui sont partis enterrer ton mari, les voilà à la porte. Bientôt, ils t'amènent. Et elle aussi tombe et on l'amène. Ah! Il y a deux fois qu'on n'a pas le temps de se repentir. Akane n'avait pas ce temps. On l'a récupéré seulement, on l'a lapidé. Ça fait aussi des victimes, sa femme, ses enfants. Est-ce qu'ils étaient avec papa? Papa était seul en guerre avec la troupe. Mais désobéissant, là, il vient dissimuler des choses et toute la famille doit perdre. Pas seulement sa famille, mais dans l'histoire d'Israël, on reconnaît qu'en Aï, à la bataille de Aï, on a battu Israël. Non, la désobéissance n'est pas bonne. Alors, est-ce que tu peux confesser ce que tu as fait dans le secret? Dieu est omniprésent, il est omniscient, il connaît, il est présent. Il sait tout ce que tu as fait et il est prêt à t'accueillir si tu te répands. Si tu te répands. Il y a certains qui manquent même des tombes ou t'enterrer à cause des désordres que tu as fait. On a déjà eu ces cas ici à Goma, je me rappelle, un papa qui était mort. À cause des dégâts qu'il avait fait au village, quand sa dépouille arrive, on dit vous amenez qui? Celui-ci sur cette terre, jamais. Ah! Même le cadavre est puni. C'est fort, c'est fort, c'est fort. En tout cas, il suffit seulement de se repentir. Dieu va nous accueillir. Il est plein de grâce, plein de miséricorde. Il est prêt à nous accueillir. Alors la fidélité, elle s'exerce souvent ou bien par rapport à la Torah. C'est seulement la loi, l'obéissance à la loi de Dieu qui peut te sauver. Si tu as décidé d'être fidèle, observe bien la loi de Dieu et tu vas payer le prix de l'obéissance au lieu de payer le prix de la désobéissance. Le respect de la loi reste le seul chemin pour être fidèle à Yahweh. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que Dieu a fait de toi, comme il l'a fait à David, il peut tout retirer et il t'humilie. N'attendons pas que Dieu nous humilie. En tout cas, c'est fort. Oui, faisons seulement de la repentance et Dieu va nous accepter tel que nous sommes. Alors qu'il nous aide à nous écarter de tout ce qui peut nous éloigner de la vie éternelle. Amen.
David s'est repenti et il a prononcé ces paroles. Il a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » David a eu le temps de se repentir. Toi et moi aussi, nous avons ce temps. Bien-aimés, ne perdez pas cette occasion aujourd'hui.